Bonjour. Les papous en piste jusqu'à 13h58, c'est la récré littéraire. Une émission à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Au menu, vive la sociale, avec l'employé modèle en bonus, une page de pub et la dissertation de philosophie de Patrick Beignet.
Comment un philosophe peut-il ainsi obéir à une femme ? Celle-ci n'a-t-elle pas honte de ne pas descendre elle-même la poubelle ? Il y a là de quoi devenir misogyne. Malheureusement, là n'est pas notre sujet.
Ensuite, le joli dimanche Beatles de Jeanne Carillon, suivi par Gérard Mordillat, un papou qui a lu Jacques Bertrand pour nous. Et en fin de programme, le DLA choisi par Jacques Jouet pour Dominique Muller et Serge Joncourt, entre autres experts.
Quand un homme est à ce point perdu dans la vie qu'il n'a pas un ouvre-bouteille sur lui, c'est que vraiment ça va très mal. Donc ils font sauter le couloir, peut-être même avec un sabre.
Oui, c'est ce sabre, que je disais, oui.
Parce que le vin se sabre aussi bien que le champagne, si vous prenez bien le boulot. Donc il y a de la guerre là-dessous. Alors laquelle
Merci de votre fidélité à nos jeux. Et un grand salut à ceux qui nous rejoignent. François Stressart et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche, papou. Le 30 septembre dernier, nous avons passé une soirée vive la sociale sur la scène du studio 105. Vous avez pu écouter cet enregistrement les deux derniers dimanches. Reste un jeu à découvrir avec Patrick Beignet et Hervé Letellier. Patrick Beignet, dans la peau d'un chef d'entreprise, un rôle de composition pour lui, qui écrit à un de ses employés, qui porte un nom, Patrick.
Il s'appelle Monsieur Badin.
Oui, c'est un bon nom.
Oui, c'est son portrait exactement.
Oui.
Cher Monsieur Badin, c'en est trop cette fois, vous êtes licencié. Le poste de chargé de recherche sur la faisabilité des projets et l'ergonomie des écosystèmes ne saurait être confié à un irresponsable tel que vous. L'avenir de notre entreprise de porcelaine artistique ne doit pas être mis en péril. D'une certaine manière, l'avenir de la France en dépend. Je me souviens de la première fois où je vous ai vu, à l'occasion de votre recrutement. Vous m'aviez fait bonne impression et même, je peux vous l'avouer aujourd'hui, je m'étais dit « Tiens, c'est exactement le mari qu'il faudrait à Nicole. Nicole, c'est ma fille. Oui, vous auriez été le mari qu'il lui aurait fallu et le gendre que tout patron rêve de lui voir succéder. Quand en plus j'ai appris que votre auteur favori était Pierre Bergougnoux, j'ai cru défaillir. Pierre Bergougnoux est aussi l'auteur préféré de Nicole. C'est à lui qu'elle a consacré son master de littérature. Le sens du mot dans l'œuvre de Pierre Bergougnoux, qui lui a valu la mention très bien. Je sens que vous auriez pu avoir des conversations passionnantes avec Nicole. Malheureusement, elle a voulu épouser ce grand crétin de Stéphane qui n'aime que Pascal Quignard. Mais mon amour paternel m'égare et j'en reviens à votre licenciement. Nous vous avons amplement averti. Au printemps dernier encore, j'ai fait avec vous le bilan des reproches que vous faisiez unanimement vos collègues. C'est bien la seule fois où j'ai vu vos collègues unanimes sur quelque chose. Je sais ne pas avoir été le seul à attirer votre attention sur les problèmes que posait votre conduite extravagante. Rien n'y a fait. Et en dépit de nos avertissements, vous persistez dans une conduite que je n'hésite pas à qualifier d'aberrante, si bien que je n'ai plus le choix. Vous avez contribué à provoquer le désordre et la tension dans l'entreprise par votre folle application à être un employé modèle. Vous auriez dû comprendre qu'il n'y a rien de tel qu'un employé modèle pour semer la pagaille et troubler l'activité. Votre ponctualité, votre disponibilité, votre gentillesse constante et pire, votre efficacité en tout domaine, telles sont les armes que vous utilisez contre notre communauté, sciemment ou non. Et ce sont entre vos mains des armes terribles. Dès qu'il y a un problème, vous employez à le résoudre, sans ostentation. Une tension menace-t-elle le bon fonctionnement d'un service ? Hop, vous la faites disparaître en un tour de main. Tous nos collègues l'ont constaté et en ont souffert. À cause de vous, tout marche bien. À cause de vous, les projets sont menés à terme avant même qu'on ait le temps d'en souligner les impossibilités. Comme me le disait le directeur du personnel, s'il n'y avait que vous, on finirait par améliorer les résultats. Ce qui est tout de même paradoxal en temps de crise. Il n'est pas jusqu'aux femmes de ménage qui ne vous haïssent. Pour nous, me confiait leur délégué, pour nous, M. Badin est un vivant reproche. Dans votre bureau, jamais un papier qui traîne, jamais une miette, jamais même un grain de poussière. J'en ai des cauchemars, me disait encore la déléguée. Si tout le monde était comme lui, nous serions au chômage. J'ignore quel est votre secret, monsieur Badin. Si vous êtes un bolchevique, ou un psychorigide, ou un robot, ou simplement un lecteur de Pierre Bergougnou. Je ne suis certain que d'une chose, vous êtes renvoyé. Bien à vous, Jean-Pierre Dubois.
C'est très dur, très violent, mais la lettre est charmante quand même. Il faut savoir trancher dans le vif. Hervé Le Tellier, vous seriez monsieur Badin ou pas ?
Non.
Vous êtes
non.
Qui ?
Je vis avec cet employé modèle.
Vous êtes madame Badin ?
Oui. Et monsieur le directeur.
Ah, vous lui répondez ?
Bah, directement, oui, parce que j'ai des choses à lui dire.
Ouais.
Mon prénom ne vous dira rien, mais mon nom, certainement. Je suis Josette Badin. L'épouse de Stéphane Badin, que vous avez mise à la porte la semaine dernière. Je m'autorise à intercéder en sa faveur. Je ne sais rien des raisons qui vous ont conduit à une telle décision, mais il faut me le reprendre, monsieur le directeur. Il faut le reprendre. Je suis à vos genoux. Depuis que Stéphane et moi sommes mariés, ça fera bientôt 10 ans. Et 10 ans, c'est long, surtout avec Stéphane. Donc, depuis 10 ans, c'est son 7e emploi. Chaque fois, cela semble bien parti, et chaque fois, c'est l'échec. J'avais pourtant de l'espoir avec ce poste de chargé de recherche sur la faisabilité des projets et l'ergonomie des écosystèmes, mais non. Alors chaque fois qu'il rentre à la maison, il n'évoque jamais la raison pour laquelle il est licencié, mais je sais bien qu'il cache un lourd secret. Boit-il ? Commet-il des larcins ? Se bat-il avec ses collègues ? Je ne le pense pas. C'est un homme qu'on en fait peu. Quoi qu'il en soit, monsieur le directeur, aucun de ses emplois, aucun n'a duré plus de 2 ans. Stéphane a une enfance très difficile. Il a tout de suite fait ses nuits. Il mangeait tous ses repas et finissait les légumes verts sans que ses parents n'insistent. Ses résultats à l'école étaient bons. Il faisait ses devoirs tout seul le soir, juste avant d'aller brosser ses dents. Et le matin, il se levait de lui-même. Il a tout de suite su faire ses lacets. Et dès l'âge de 3 ans, il se préparait son petit déjeuner. Adolescent, il rangeait ses affaires. Il ne restait pas des heures sous la douche. Lorsqu'il disait qu'il allait chez un ami et qu'il rentrerait avant minuit, il allait vraiment chez un ami. Il rentrait vraiment avant minuit. Son frère et sa sœur aînée l'ont évidemment tout de suite pris en grippe. Et à l'école, ce fut pire encore. Lorsque Stéphane et moi nous sommes rencontrés, j'étais jeune, un peu perdu, et tout de suite, il m'a demandé en mariage. Je n'avais rien à lui reprocher. Je voulais quitter le domicile parental, j'ai accepté. Stéphane est un mari parfait. Il accomplit son devoir conjugal avec une régularité de métronome qui l'honore, ainsi que toutes les tâches domestiques, et bien au-delà du nécessaire, mais cela fait 5 jours qu'il est à la maison déjà. 5 jours. Il nettoie les vitres, il passe l'aspirateur, il fait la cuisine, il fait les courses, et tenez-vous bien, il fait le repassage. Il est prévenant envers moi, si je prends un martini, il y glisse un glaçon, une olive. Si je prends un livre, il m'en conseille un autre plus intéressant de Pierre Bergougnou. Si je veux sortir, il décide de m'accompagner pour que je ne m'ennuie pas. Il veut me distraire, et hier encore, croyant me faire plaisir, il a invité ma mère à dîner. Je n'en peux plus, monsieur le directeur. Vous comprenez, j'ai une vie, moi. J'ai un amant, je joue aux courses, je bois. J'aime rester au lit sans qu'on vienne me passer le plumeau sous les rideaux. Il faut me le reprendre, monsieur le directeur. Il faut me le reprendre ou nous allons vers le drame. Je vous embrasse, je suis à vous. Josette.
À noter sur vos tablettes notre prochain rendez-vous au studio 105 pour une nouvelle soirée en public des Papous dans la tête. Ce sera le vendredi 4 novembre. Des Papous tout amour de 20h à 22h30. L'amour sera l'objet de nos jeux, dont certains improvisés devant vous, parfois avec des contraintes que vous proposerez. Un petit supplément de plaisir et de risque, mais les deux vont si bien ensemble. Un indice, affûtez vos rimes. Avec moi sur la scène du Petit Studio 105, Jean-Bernard Pouy, Odile Conseil, Hervé Le Tellier, Eva Almassy, Patrice Caumont, Lucas Fournier, Gérard Mordillat, Jeanne Carillon, Sophie Divry, une grande première pour elle, Patrice Minet et Gabriel Godard pour nous accompagner en musique. Réservation indispensable et ouverte sur le site maisondelaradio.fr. vous cliquez sur l'image des papous, sur le calendrier, à la date du 4 novembre. On sera ravis de vous avoir avec nous et de vous faire rire et sourire, deux verbes qui ne sont pas toujours de saison. Profitons-en. Je récapitule, les papous, tout amour, c'est en public, le vendredi 4 novembre de 20h à 22h30 au studio 105 de la Maison de la Radio. Et c'est le temps de la pub, mais publie Papoucité. Hommage aux traducteurs par Eva Almassy qui a découvert la littérature française en Hongrie grâce à la traduction, parce qu'avant de débarquer en France, elle ne maîtrisait pas un mot de français. On peut dire qu'elle s'est bien rattrapée. Souvent, dans les diagnostics à l'aveugle, les traductions sont un peu moquées, mais entendons-nous bien, c'est juste parce que les experts sont à bout d'arguments. Mais heureusement qu'elles existent. Alors vive les traducteurs, vive la traduction. Par Eva Almassy, avec Jeanne Carillon, Patrice Caumont, Hervé Le Tellier. Et au piano, Gabriel Godard.
To be or not to be, that is the question. Whether is nobler in the mind to suffer the sling and arrows of a treasure's fortune.
Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte, mourir, dormir, rien de plus. Et par ce sommeil dire que nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair,
c'est là une terminaison qui doit souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir. Hat den Knaben wohl in dem Arm, fasst ihn sicher, hält ihn warm.
Quel rêve peut-il nous venir?
Mein Sohn,
quel est ce chevalier qui file si tard dans la nuit et le vent? C'est le père avec son enfant. Il serre le petit garçon dans son bras. Il le serre bien. Il lui tient chaud. Mon fils, pourquoi caches-tu avec tant d'effroi ton visage?
Père, ne vois-tu pas le roi des eaux? Le roi des eaux avec sa maîtresse.
Je suis ce que tout homme, majesté, pôle nord, énigme, étrangeté, feu follet luisant loin, hélas, je ne sais pas ainsi rester, j'ai envie que mon être soit manifesté, pour que me voie qui voit, que me voie qui voit.
Vive les traducteurs! Vive la traduction!
Grâce à qui puis-je lire Kawabata, Soseki, Akutagawa, Mishima, autrement qu'en japonais?
Ou mon Andersen chéri, autrement qu'en danois?
La langue de Shakespeare, la langue de Goethe, la langue de Pushkin, la langue de Cervantes, tout ça, ça devient du bon français.
De VO en VF, OOC, original, d'origine contrôlée.
Le miracle de la transsubstantiation.
Vive la traduction!
Vive les traducteurs!
Sans eux sous ces cieux, pas de Pirandello, pas de Selma Lagerlöf, ni Saramago, ni Garcia Marquez, ni Yasser Kemal, pas d'Ismaël Kadaré.
Ni Bible, ni Gilgamesh, ni Kalevala, ni Mahabharata.
Ni Socrate, ni Confucius, ni Spinoza. Que la confusion des langues.
Vive la compréhension! Gloire aux traducteurs!
Avec un plus gros salaire si possible.
Nem és nem, nem, nem bánok semmit sem, akár jó, akár nem, ami volt, minden mindegy nekem. Sem, ami volt, szerte hult, mint hazug, kinek el az a múlt.
Nem, nem és nem, c'est du vietnamien ou du chinois?
C'est le numéro 19 sur le menu.
Merci.
Merci qui?
Merci les traducteurs.
a papuk a fejben a franc kultúrán.
Et oui, c'était la version hongroise de « Vous écoutez des papous dans la tête » sur France Culture. On aperçoit le bout du mois d'octobre, les vacances scolaires. Il est temps pour nous de vous préparer en jouant, vous, lycéens de terminale, à vos contrôles d'après la Toussaint. La dissertation de philo des papous a cela de particulier que son sujet s'appuie sur une fausse citation dont le professeur ne donne que deux mots. Au dissertant de l'imaginer à partir des mots offerts, cette citation, et puis de traiter le sujet à sa façon. L'élève, c'est Patrick Beignet aujourd'hui, une autre élève, Eva, sur le même sujet un prochain dimanche. Et le professeur, c'est Jacques Vallée. On écoute votre sujet, Jacques.
Dans ces fameux concepts fondamentaux, Heidegger écrit « la 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 la, la 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 la, poubelle, la 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 la, antinomie, la 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 ».
Oui.
Après avoir dégagé les principes philosophiques qui fondent cette pensée, vous essaierez, en vous appuyant sur une œuvre concrète, d'analyser en quoi la notion du provisoire rejoint celle de l'éternité.
Oh, c'est un beau sujet. Hein.
Oui, c'est dommage que...
que ça ne soit pas tombé oui, sur voilà. Vous, Jean-Bernard Puy.
Par exemple.
Pas non, dommage du
généralement,
tout,
je tombe sur des sujets beaucoup plus complexes.
Ah oui, mais vous êtes un intellectuel, Jean-Bernard Puy.
Ça fait mal, quand
alors, Patrick Beignet, vous êtes satisfait du sujet? Enfin, vous venez de le découvrir, c'est le jour ouais. De l'examen. Plutôt content ou pas?
On fera avec.
Ah oui, il n'y a pas plus d'enthousiasme non, que pas, ça.
Mais quand, vous ne pouvez pas demander à un élève d'être bah enthousiaste.
Oui, ah bon?
Bah, qui passe un examen, bah, c'est ouais. Toujours un...
Qui voit que... les traits redoutables du caractère.
Ah oui, ça c'est vrai qu'il est un peu inquiétant, Jacques Vallée. On retrouve Patrick Beignet avec sa dissertation et son examinateur Jacques Vallée. Ah, dites-moi à propos, Jacques, c'est un peu une première pour vous de rédiger un sujet de dissertation de philo, non ?
Ah non, j'ai une vieille habitude des sujets.
Ah bon ?
Donc il est très sérieux, comme d'habitude, je suis un professeur très très sérieux.
Et... oui, belle gravité.
Oui, voilà.
Alors rappelez-nous le sujet.
Dans ces fameux concepts fondamentaux, Heidegger écrit « la 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 ». La 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 poubelle, la 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 antinomie, la 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 la.
Oui. Et donc le sujet...
après avoir dégagé les principes philosophiques qui fondent cette pensée, vous essaierez, en vous appuyant sur une œuvre concrète, d'analyser en quoi la notion du provisoire rejoint celle de l'éternité.
Très beau sujet, hein. Très très beau. Ça vous fait rire, Jean-Bernard? Ah, vous êtes content de ne pas être tombé dessus, non?
D'abord, oui, c'est énormément. Et puis, deuxièmement, j'adore les sujets de dissertation, des poèmes, à eux tout seuls.
Surtout avec Jacques Vallée, qui est notre
surtout
poète.
Surtout avec tout le monde.
Moi, surtout avec ouais, tout ouais. Le monde, oui. D'accord. Alors, je me tourne vers le candidat Patrick Beignet, qui a fréquenté le cours de Jacques Vallée, je crois.
Oui.
Hein? Donc, ouais, bah, donc vous tombez sur un sujet...
J'ai appris la gravité, donc...
Voilà, vous tombez donc sur un sujet de votre enseignant, ce qui est peut-être plus facile, non? Parce que vous le connaissez un peu par cœur, Jacques Vallée.
Oui. Il n'est pas connaissable par cœur.
Ah bon?
Il est toujours imprévisible.
Il y a toujours un mystère avec
toujours
lui.
Neuf.
Donc, cette vraie fausse citation, Patrick, quelle serait-elle?
D'abord, je voudrais dire que je regrette qu'elle soit en français et pas en allemand.
Ah.
Heidegger n'a de sens qu'en allemand.
Ah oui, enfin, mais je pensais que vous alliez introduire les notions d'allemand dans votre réponse.
Voilà,
je vais
vous
voir.
Pensez,
je vais juger votre...
C'est tout vous, ça, vous pensez. Bon. En tout cas, la phrase, « Quand ma femme me dit de descendre la poubelle, je ressens fortement l'antinomie entre le monde de la pensée et celui de l'action.
Ah. »
C'est parfait.
On démarre très très fort.
Ouais, hein. Ça, c'est vraiment... ouais. Mais c'est un bon élève, hein, je vous dirais.
Ah oui. Ça se sent.
C'est hein. Peut-être le meilleur de ma classe, mais bon, il faut le noter assez sévèrement quand même.
On est toujours plus exigeant avec les bons élèves.
Oui, c'est pour le mener plus loin.
Et j'ai l'impression d'avoir déjà lu mon sujet. Je peux rentrer chez moi.
Allez-y, Patrick Beignet.
Voilà une phrase typiquement existentialiste qui conduit à une critique de la vie quotidienne. Comment un philosophe peut-il ainsi obéir à une femme ? Celle-ci n'a-t-elle pas honte de ne pas descendre elle-même la poubelle? Il y a là de quoi devenir misogyne. Malheureusement, là n'est pas notre sujet. Nous allons plutôt chercher, à partir de cette phrase, les principes philosophiques qui fondent cette pensée, avant d'analyser provisoire et éternité. Pareille pensée relève de toute évidence du dualisme, de l'opposition entre de supposés contraires, le haut et le bas, le noble et l'ignoble, etc. Le dualisme, dont s'est longtemps nourrie la pensée occidentale, donne un dynamisme à l'homme porté autrement à se figer dans la pensée. Pourtant, le dualisme n'est pas suffisant pour rendre compte de notre activité mentale. Prenons la poubelle du philosophe, puisqu'il nous la met entre les mains. Si elle est pleine, cette poubelle, d'épluchures de légumes, de vieux flacons de shampoing, c'est le triomphe de l'ignoble et du bas. Mais si la poubelle contient des brouillons de Heidegger, n'est-elle pas transfigurée? L'opposition noble-ignoble ne suffit plus si elle contient un fragment inédit d'être et temps et de vieilles chaussettes trouées. L'exemple d'une œuvre concrète devrait nous conduire au-delà du dualisme dans l'aventure d'une pensée libre. J'ai d'abord pensé prendre l'exemple de la mayonnaise, prodigieuse métamorphose du provisoire, les œufs, l'huile, en quelque chose de supérieur. La mayonnaise qui a pris. Mais même une mayonnaise extrêmement bien réussie ne saurait être qualifiée d'éternelle. D'abord parce qu'on la mange le plus souvent, puisque généralement c'est dans ce but qu'on la fait. Il n'est pas impossible cependant que les ineffables escrocs de l'art contemporain, comme notre professeur qualifie les plasticiens, aient inventé de fabriquer des mayonnaises qu'on rendrait éternelles en les conservant dans des coffrets spéciaux. Mais je refuserai à ce type de mayonnaise le nom d'œuvre. Alors je me rabats sur la Joconde, le célèbre tableau de Michel-Ange, qui a d'ailleurs des points communs avec une mayonnaise, mais plutôt une mayonnaise ratée. Si elle est ratée en tant que mayonnaise, la Joconde est réussie en tant qu'œuvre d'art, vénérée par les foules, érigée en tant que figure éternelle. Ce visage provisoire, ce sourire transitoire, est devenu pour l'homme ordinaire du monde occidental une image d'éternité. La Joconde, ce pauvre corps dont nul ne sait vraiment si c'est un homme ou une femme, est transfigurée comme œuvre au-delà du beau et du laid. Toute pensée un peu structurée conduit ainsi, c'est ma conclusion, à une réflexion sur l'œuvre d'art, voire à sa mise en question.
C'est beau, ça débouche vraiment sur un autre sujet, ça reste ouvert.
C'est très brillant. Il y a quelques petites notations, des petites confusions. Il commence avec l'existentialisme, après il rippe sur le dualisme. Après, et il a donné d'une façon très précise la pensée d'Heidegger, puisqu'il l'a inscrit dans la réalité.
Oui.
Mais il aurait pu citer le fameux Dasein, de Martin Heidegger, qui est être présent au monde, et il en a fait la description sans le citer. Comme il se plaignait qu'il n'y ait pas de terme en allemand, j'aurais aimé que dans son devoir, il introduise cette notion.
Vous voulez dire que Dasein, ça veut dire mayonnaise en allemand?
Exactement, vous avez tout à fait résumé ma pensée. Et j'avais pensé, moi, dans le sujet, lorsque je demandais de s'appuyer sur une œuvre concrète,
oui.
J'avais pensé à l'avenir et dans les œufs. Et je retrouve la mayonnaise ici.
Ah, c'est pas mal.
Ah oui, je trouve que c'est très subtil. Alors je lui mettrai 17.
C'est excellent, ça. Vous voyez.
Malgré la Joconde de Michel-Ange.
Oui, 17, alors cette petite erreur.
Oui, des petites erreurs, mais je lui pardonne parce qu'il me fait un devoir de philosophie et un devoir artistique.
D'accord.
Faut pas mélanger les sujets.
Oui.
Donc on a le droit de dire des bêtises dans les devoirs de philo.
Mais c'est-à-dire il faudrait qu'il sorte un peu au Louvre, mais peut-être qu'il n'a pas encore été.
Non, puis on suppose que c'est un lapsus qui est venu sous sa plume. Non, vous l'avez...
Je ne vois pas où est
l'absus. Vous n'avez jamais vu la Joconde?
Il n'a pas vu la signature.
Très bien. Content, Patrick Beignet?
Oui.
C'est surtout un provocateur. Il a fait ça pour savoir si on allait relever.
Oui, exactement. Et en cadeau de félicitations, Patrick Beignet, le joli dimanche de Jeanne Carillon sur Michel des Beatles. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche tout en écoutant les papous? On mange. Jeanne Carillon accompagnée au banc de néon par Pablo Gignoli.
Blanquette de brunch du dimanche. Gigot d'agneau sont des mecs qu'on raffole le dimanche. Lunch du dimanche. Cuisiner, mijoter, mitonner, le repas du dimanche. Les oignons sont coupés, la table est dressée, les invités sont prêts à chanter. Poulet, maillot, sont des mecs qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Rejeter, refuser, oublier tous vos plats préparés. Sortez vous promener avec votre pâté, votre bœuf engelé, allez donc pique-niquer. Le dimanche. Secouer, renouveler, inventer la cuisine du dimanche. Chouchoutez vos papillons. Et si vous êtes repu, n'en pouvez plus de baffrer. Endives, poireaux sont des mets pour le soir du dimanche, soir de bombance. S'il y a la vaisselle qui vous appelle, eh ben tant pis pour elle, le dimanche.
Vous écoutez France Culture. Des papous dans la tête. Au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du jour, à suivre jusqu'à 13h58. Quand un papou lit un autre papou et le DLA, piège littéraire tendu par Jacques Jouet, aux experts Dominique Muller, Gérard Mordillat, Jacques Vallée et Serge Joncourt. Donc Gérard Mordillat est déjà là puisque c'est lui le papou qui a lu, comme beaucoup d'entre nous, un autre papou, le papou Jacques Bertrand, et il nous raconte les biographies non autorisées de Jacques, parues chez Julliard. Gérard Mordillat, on vous écoute.
Écrire la biographie d'un biographe est certainement un exercice qui, du point de vue de l'esthétique, est apporté au pinacle. D'autant plus précieux à effectuer qu'il s'agit de biographies non autorisées, rassemblé par Jacques à Bertrand et que d'autres que moi ont chanté les charmes de la transgression de l'interdit. Quand il était petit, le père de Jacques à Bertrand donna certainement à son fils ce conseil que donnent volontiers tous les pères. « Raconte pas ta vie. Ouais. » Et, bon fils, Jacques ne raconte pas sa vie, mais celle de Dieu, de la cellule, d'Athéna, de la première épouse, de Lucifer, de la première vague, de la liberté de penser et de beaucoup d'autres, jusqu'à celle inattendue de lui-même. Le non-autorisé s'autorise à biographier la sienne comme si c'était celle du vrai Jacques à Bertrand. Seuls ceux qui ne goûtent pas son ironie, sa distance moqueuse avec la vérité vraie, la prendront pour argent comptant. Sa biographie de moi-même et accessoirement est bien sûr une biographie fantaisiste, de l'auteur écrite par le fameux Jacques, qui est un autre.
Sauf le pull-over à rayures du petit garçon.
Biographie drôlatique essentiellement axée sur un pull marin tricoté main.
Ouais.
Symbole, hyperbole, faribole, au fil d'une vie qui gratte, qui défie les codes de l'esthétique, qui peluche et qui rétrécit. Mais ouvre sur l'horizon, sur les voyages, sur la mer sans cesse recommencée. Jacques à Bertrand a l'humour voyageur, la drôlerie exploratrice quitte à manger son estomac, livre paru en 2014, au milieu des autres qui sont des sales types, livre paru en 2009 et qui reçut, vengeance expéditive, le prix de l'humour noir. Le cinéaste américain Emile D'Antonio, autorisé par la loi à consulter la fiche du FBI le concernant, avait eu l'idée de tourner un film sur lui, à partir des renseignements contenus dans le dossier réuni par les services secrets américains. Il en sortit un Émile D'Antonio tout à fait singulier, loin, très loin du vrai Émile D'Antonio, mais faisant tout ce qu'il faisait, rencontrant qui il rencontrait, disant ce qu'il disait, sans que jamais ce soit lui. Jacques A. Bertrand se dispense du FBI, de la CIA, de la DST et de tous les honorables correspondants pour raconter sa vie en racontant l'homo fundamentalis, la matière noire, le destin et surtout le clown. Mais c'est lui qui est éminemment métaphysique, un ange des métamorphoses. D'un livre à l'autre, Jacques A. Bertrand se livre comme Frégoli, faisant l'âne pour faire les sales bêtes, petit chose pour faire les choses, Higelin pour faire chanteur, cheval léger de la littérature, volant comme un papillon, piquant comme une abeille les ridicules et les vanités d'une société où domine l'accablant esprit de sérieux. Jacques A. Bertrand n'est pas sérieux. Il est grave, il est drôle, il est mélancolique, comme l'est la balance. Il est un styliste dont l'élégance est la marque même de son humour. Cette politesse du désespoir, attribuée à Hugo, Wilde, Avian, et que Dominique Noyez rendit au cinéaste Chris Marker. Alors que l'édition se plaît à compiler en pléiades, en bouquins, bibliots, rototos et chapeaux pointus, tant d'auteurs dont les œuvres sont essentiellement utiles à caler les armoires, il est urgent d'avoir chez soi son Jacques A. Bertrand, en un seul et magnifique volume, à consulter matin, midi et soir, afin, comme il l'écrit si joliment, de sourire si possible, en attendant le prochain Noël.
Biographie non autorisée, c'est chez Julliard par Jacques A. Bertrand.
Dans la salle d'attente de la gare de Nantes,
j'attends.
Surprise au menu, je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter à nouveau la biographie non autorisée de la première épouse, dont Jacques A. Bertrand nous avait donné la primeur.
Notre première épouse était venue au monde sans incident majeur, ni sans explosion de joie particulière. Sa mère, dont elle était le dixième rejeton, ne s'émut pas spécialement de sa naissance. Son père était absent, comme sont beaucoup de maris, paraît-il. Utile était là qu'il n'aurait pas apparu davantage présent, car ce passionné de grand air supportait mal les atmosphères confinées. À la maïoticienne qui l'interrogeait, la mère de la nouvelle-née répondit avec une moue désabusée « Il est en mission depuis 6 mois dans l'Antarctique, à mesurer la température de la glace ou quelque chose comme ça, enduit de crasse de phoque. Vous imaginez l'odeur quand il va rentrer ?» La sage-femme, qui était aussi une femme sage, jugea bon de ne pas insister. En dépit de la bonne tenue des registres d'état civil et des sciences qui en décrivent scrupuleusement le processus, la naissance demeure un mystère. Que notre épouse soit née est un fait indubitable. Cependant, nous ignorons tout de ses possibles pérégrinations prénatales, sous l'espèce d'atome ou sous une autre. Il n'est pas prouvé qu'elle ne se soit pas antérieurement baladée dans le cosmos ou qu'elle ait pu vagabonder dans quelque univers parallèle. Ce qui pourrait expliquer que nous lui avons toujours trouvé l'air bizarre. Il est vrai que de notre côté, nous n'avons jamais cessé de lui paraître étrange. Elle fut une chic fille, une bonne camarade, une élève attentive, ce qui ne l'empêcha pas d'être prise en grippe par la maîtresse du cours moyen, une méchante bonne sœur, qui lui ont voulu d'être plus belle, plus gentille, ou plus méchante qu'elle, qui sait. Elle rêva modérément, à la différence de certaines de ses copines, mais dépourvue de méfiance, elle demeura longtemps assez naïve, accordant sa confiance sans examen préalable, ce qui ne manqua pas de lui jouer quelques mauvais tours. On lui avait affirmé qu'elle était née dans un chou et longtemps, elle refusa d'absorber la moindre crucifère. Lorsqu'elle nous vit pour la première fois, elle reconnut tout de suite en nous le Père Noël. Ce fut notre première erreur, nous n'eûmes pas le courage de la détromper. Nous lui fîmes de nombreux enfants, sans grand enthousiasme, qui se révélèrent de bons petits gars et de belles petites garces. Garce était à l'origine le féminin de gars, à l'exception de quelques attardés et d'un surdoué particulièrement pénible. Un voisin sexagénaire qui venait régulièrement poser son estomac proéminent sur la barrière séparant nos jardins ne cessait de répéter sur le ton rigolard que cette ribambelle serait un soutien pour nos vieux jours. Nous n'avons jamais eu l'intention de devenir vieux, encore moins de vivre de vieux jours. Certes, les jours ne sont pas toujours de prime jeunesse, sans compter que les aubes sont parfois navrantes, comme dit le poète. Naturellement, nous l'avons beaucoup trompé, moins souvent cependant que nous lui eussions souhaité, car non seulement nous ne trouvions pas toujours de partenaires à notre goût, mais encore de nombreuses partenaires possibles ne nous trouvaient pas au leur. L'adultère est une activité des plus délicates, compliquée de problèmes d'agenda et de timing, augmentée de l'obligation de changer régulièrement d'hôtel et assortie d'un fort sentiment de culpabilité. Jusqu'à ce que nous apprenions qu'elle nous trompait de son côté, ce fut un soulagement. Elle nous fit part de son intention de nous quitter un matin calme, d'une température agréable due au retour de l'anticyclone des Açores, alors que nous étions en train de feuilleter le journal. En réalité, nous ne lisions plus de journaux depuis longtemps. Il n'y a jamais rien de nouveau dans le journal que l'annonce de catastrophes attendues et la fastidieuse répétition d'états de faits anciens. À un journaliste qui lui demandait si toutes les difficultés entre ministres étaient enfin aplanies, M. Clémenceau répondait « Oui, tous les ministres sont d'accord sur un point, ils veulent tous garder leur portefeuille ». C'est dans les cahiers de Maurice Barrès à la date du 31 mai 1906. Quoi de neuf à ce jour? Mais il est vrai que le journal permet de se donner une contenance, surtout au petit déjeuner, pour éviter d'avoir à répondre à d'éventuelles questions tout en pensant à autre chose ou même sans penser à rien. « Je pars », déclara-t-elle. « Pourquoi spécialement aujourd'hui ?» répondîmes-nous.
Ouais.
« L'ennui. Ce n'est pas que tu sois plus ennuyé qu'un autre, continua-t-elle. Seulement tu n'as pas le talent de me distraire de mon propre ennui. » Nous ne protestâmes pas, car nous comprenions d'autant mieux son propos que nous pensions de notre côté symétriquement la même chose. Restaient certains détails à régler, assommants. L'existence est un agrégat de détails assommants. L'avocat, la pension alimentaire, la garde alternée des enfants, tous. Nous nous remariâmes plusieurs fois de notre côté. Nous connûmes quelques matins radieux, puis, assez vite, nous reprîmes le journal au petit déjeuner. Elle se remaria, vécut quelques aubes radieuses, et se remit probablement à s'ennuyer. Nous ne nous revîmes pas pendant plusieurs années. Et puis, un jour, par un bel après-midi de fin d'été, empreint de douceur et de nostalgie, nous déambulions sur les Champs-Élysées, d'excellente humeur, on ne sait plus pour quelle raison, lorsque nous l'aperçûmes. Nous faillîmes ne point la reconnaître. Elle était vêtue d'un petit tailleur tout ce qu'il y a de plus chic, qui mettait en valeur le galbe de ses jambes, la finesse de sa taille et sa poitrine, nous avions oublié sa poitrine. Avec sa souriante, l'air comblé, elle nous présenta au type qui s'accrochait à son bras, qui nous salua courtoisement, bien que distraitement, nous semble-t-il. Industriel richissime, sans doute, son dernier mari. Nous nous séparâmes après quelques propos de circonstance. Nous reprîmes notre promenade un peu rêveur. « Avons-nous vraiment connu cette femme ?» nous demandâmes-nous. Nous ajoutâmes « Nous aurions pu l'épouser ». Mais reprenant nos esprits, tout de même, nous avions atteint un âge raisonnable. Songeant que nous étions attendus à la maison, nous nous précipitâmes vers le kiosque le plus proche pour acheter le journal.
Mais quelle tristesse dans tout ça.
C'est épatant, ce pessimisme.
Ah oui.
Épatant.
Vous partagez tout ce qu'il a dit.
5 sur 5.
Et vous, Odile, en tant que femme?
Non, ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse à cette partie de l'humanité qui épouse des femmes, donc je ne me sens pas beaucoup concernée.
En tout cas, je trouve délicieux l'usage du passé simple.
Oui.
On ne parle pas suffisamment souvent au passé simple.
Avec un nous de majesté qui est majestueux, justement.
Absolument, oui. Oui.
En amour, on ne devrait parler qu'au passé simple.
J'ouvre un magazine et je vois
une jolie petite rousse qui se tape une mousse au chocolat.
Ses lèvres gourmandes m'invite avec elle.
Rien qu'une cuillère, avant que ma grand-mère ne revienne.
Au chocolat. Jacques Higelin avec Jeanne Chéral. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, le DLA. Jacques Jouet, c'est lui, le poseur de pièges. Il a choisi dans sa bibliothèque un extrait de littérature qui lui plaisait bien et il pensait que ça constituerait une bonne petite épreuve pour les experts Dominique Muller, Jacques Vallée, Gérard Mordia et Serge Joncourt. Ils ont beau être très cultivés, ils n'ont pas lu tous les livres et d'ailleurs même si c'était le cas, ils ne pourraient pas humainement se souvenir de tout. Alors, piégera ? Piégera pas ? Jacques Jouet nous livre son extrait à l'aveugle, aucun indice. Et en deuxième chance, il a préparé trois noms sur un petit papier. Nos experts auront le choix pour se tromper ou pas. On vous écoute, Jacques Jouet.
Depuis combien de temps avez-vous attrapé cette toux ?
Oui, évidemment.
Il fut impossible à mon pauvre ami de répondre avant quelques minutes. Ce n'est rien, dit-il enfin. « Venez, dis-je avec fermeté, allons-nous-en. Votre santé est précieuse. Vous êtes riche, respecté, admiré, aimé. Vous êtes heureux comme je le fus autrefois. Vous êtes un homme qui laisserait un vide. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Allons-nous-en. Vous vous rendrez malade. D'ailleurs, il y a Lucchesi. Assez, dit-il, là tout, ce n'est rien. Cela ne me tuera pas. Je ne mourrai pas d'un rhume. » c'est vrai, répliquai-je, mais en vérité, je n'avais pas l'intention de vous alarmer inutilement. Mais vous devriez prendre des précautions. Un coup de ce médoc vous défendra contre l'humidité. Ici, j'enlevai une bouteille à une longue rangée de ses compagnes qui étaient couchées par terre et je fis sauter le goulot. Buvez, dis-je en lui présentant le vin. Il porta la bouteille à ses lèvres en me regardant du coin de l'œil.
Bon, alors ça a permis à Jacques Jouet de faire un excellent numéro de comédien avec ses toux parfaitement maîtrisés, des toux qui sont écrites...
Oui, peut-être préciser pour EUH, point d'exclamation, EUH, point d'exclamation, EUH, point d'exclamation, point de suspension, trois fois, et EUH, trois points d'exclamation à la fin.
Oui.
Et mais, ça, il faut, c'est... mais je pense qu'il faut les lire en tout sens, vraiment.
Et ça, oui, ça fait... comment alors
Ah, on entend très bien le « e » là dans la toux de Jacques, pas facile à imiter. Une première impression comme ça, comment avez-vous reçu ce texte, Serge Joncourt ?
Alors effectivement, il parle d'un rhume, mais oui. Moi cette toux, je la trouverais plutôt pulmonaire. Alors bon...
Bronchiteuse.
Oui, bronchiteuse, oui, beaucoup plus inquiétante que ça. Hein.
Oui. Dominique Muller, vous qui êtes enrhumée aujourd'hui,
oui,
justement,
je peux vous faire la toux, si vous voulez, sans aucun problème,
oui.
De toute façon. Je trouve ce texte terriblement inquiétant. Parce que de toute évidence, ce n'est pas cette toux qui va mener ce monsieur à la mort, c'est autre chose. D'ailleurs, il y a Lucchesi.
Qui est Lucchesi ?
Justement, on sent une menace, tout ça dans une cave, dirais-je, puisque la longue rangée des bouteilles de médoc couchées par terre, c'est dans une cave du
grand siècle.
Du Bordelais, quoi. Mmh. Voilà, mmh. Donc, ce monsieur court un danger.
Bon, vous sentez ce climat un peu inquiétant, oui, Jacques Vallée ?
Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est les rapports entre ces deux hommes. Il y en a un qui domine, c'est le narrateur. Il essaye de prendre l'ascendant sur l'autre parce qu'il lui donne des ordres. et l'autre se dérobe un peu, on sent qu'il résiste. Donc quelque chose va se nouer là-dedans. L'inquiétude vient de leur rapport, je crois.
Gérard Mandier, on est un peu dans un climat polardeux, je dirais.
Pas polardeux, plutôt complotiste. On pense qu'il va se passer quelque chose de l'ordre d'une attaque de l'État. Parce que, non, cela ne me tuera pas, je ne mourrai pas d'un rhume.
Oui.
On sent là peut-être la détermination de quelqu'un à faire une action très spectaculaire où il risque effectivement de mourir. Plutôt quelque chose de cet ordre-là.
C'est-à-dire que le côté très politisé de Gérard Mandier conduit toujours à opter entre deux choses. Où il y a le rhume, où il y a le coup d'État, quoi.
Mais je
le
pense complot. Qu'il y a un peu de ça, parce que, regardez, il porta la bouteille à ses lèvres en me regardant du coin de l'œil.
Le fameux coin de l'œil, oui, oui. Ah, oui.
Comme si le personnage qui boit se méfiait de ce qu'on lui fait boire.
Ah, oui. Ah oui, Jacques Vallée.
Ça peut ne pas être un complot, mais peut aussi deux personnes qui sont godettes, deux ivrognes qui sont godettes.
Et ils font la tournée des caves dans le Bordelais, Serge Joncourt.
Non, je ne sais
ou
pas.
Ailleurs.
Ce qui est certain, c'est qu'ils sont dans un endroit pour le moins périlleux, puisqu'il faut absolument venez, dis-je avec fermeté, allons-nous-en, votre santé est précieuse. Donc, ouais. Quand on dit ça à l'autre, c'est qu'il faut sortir de là. Alors. Je pensais, moi, je ne sais pas, à deux explorateurs au sommet d'un volcan ou effectivement deux noceurs en goguette. Enfin, il y a un moment, il faut se tirer, si vous voulez. Mais ce qui me gêne, c'est que les bouteilles qui sont là ont l'air d'être sur place, donc sont propriété de celui à qui on parle. Donc, du coup, cet homme habiterait donc dans un endroit.
Il serait monté au sommet de l'Everest avec sa cape.
Je ne sais pas. Ou,
il est prudent.
Un bateau en train de couler. Enfin, j'ai un problème, si vous voulez, de logistique pour appréhender ce texte. Et j'arrive pas à trouver l'endroit dont il faut sortir.
Se trouve,
vous pouvez aider Serge Joncourt, Dominique.
Non, au contraire, c'est encore une interrogation qui me vient. C'est qu'il y a une chose stylistique très curieuse. C'est il fut impossible à mon pauvre ami de répondre.
Oui.
Ça veut dire que bon, il y a une forme de plainte. Enfin, on le plaint ou quelque chose va se passer. Et pourtant, la ligne suivante, il dit vous êtes riche, respecté, admiré, aimé, vous êtes heureux. Alors pourquoi est-ce que c'est mon pauvre ami? C'est là où ce que disait Gérard devient plus que plausible, c'est que cet homme prépare un attentat. Voilà, c'est un coup politique, etc. Un golpé.
Il y a Lucchesi.
Et alors, qui est le fameux Lucchesi?
Lucchesi, soit c'est une menace, soit c'est quelqu'un qu'on protège.
Ah.
Donc, il ne faut pas faire quoi que ce soit qui mette en danger la vie de Lucchesi, ou au contraire, il est celui qui est lancé à la poursuite de ceux qui sont en train de se réunir là, et il faut se méfier de lui, donc il faut mieux se mettre à la cave, on ne risque pas d'être vu.
Pas mal, pas mal, pas inintéressant.
Non, non, quelle approche de la condition humaine. Non, d'ailleurs, ce qu'il voulait, le message, c'est de dire, on peut sortir d'ici, puisqu'il y a Lucchesi, donc Lucchesi, si vous voulez,
prend
les choses en... Oui, c'est la bienveillance même, Lucchesi, c'est une sorte de valeur sûre. Hein.
Ouais.
Alors, là, sûrement, où il y a une sorte de perversité, c'est que Lucchesi, évidemment, renvoie à la consonance, alors à l'Italie et quelque chose
alors,
de
méridional. Voilà.
Bon, mais ça, c'est une fausse piste.
Ou à
de
la
toute évidence, on est. Oui,
à la
oui.
Corse.
C'est une fausse piste, évidemment. On est plutôt dans la Normandie, quelque chose comme ça. voire l'Angleterre. Enfin, bon,
justement, je jouais. Quand il a lu, il a dit Lucchesi, mais ça s'écrit Lucchesi aussi. Alors, est-ce qu'on est dans un texte écrit directement en français, Jacques Vallée, ou c'est une traduction?
Je ne peux pas le dire.
Merci.
Non, je n'ai pas l'idée là-dessus. Non, ce que je voulais ajouter par rapport à la discussion précédente, c'est que ce n'est pas toujours au premier degré lorsqu'on a insisté sur mon pauvre ami, venez, votre santé est précieuse, il y a peut-être de l'humour. Il y a toute une part qui n'est pas à prendre peut-être au premier degré dans cette situation.
Comme quand deux copines se disent mais ma pauvre
chérie, je vais prendre soin de toi. Donc il peut y avoir un côté badinage derrière cette conversation.
Oui, mais à ce moment-là, alors peut-être sur cette piste-là, Médoc serait à double sens. C'est-à-dire que ça serait le vin de Médoc, mais aussi le médicament. Prends ça comme médicament, prends un coup de rouge comme médicament.
Bah oui, c'est moi, je l'avais compris comme ça. Hein.
Mais tout de même, la bouteille à la longue rangée.
Il y avait ses compagnes qui étaient couchées par terre, elle sautait une goulot. Les médicaments, tu ne fais pas sauter une goulot.
C'est Médoc qui a double sens.
Sinon, allons, il y aurait une majuscule.
Mais oui, moi j'ai tout de suite pensé médicament comme vous, Serge.
Médicament.
Ah bah oui, un coup.
C'est une abréviation.
Il n'y a pas de majuscule minuscule pour les noms de vins.
Chez vous, peut-être.
Non, il n'y a pas de majuscule.
Sur les cartes des grands restaurants, il n'y a pas château machin avec un C majuscule.
Non, mais quand tu dis du Bordeaux, tu ne mets pas un B majuscule à Bordeaux.
Jacques Jouet semble acquiescer. Oui. Ils ont raison.
J'acquiesce.
En plus, Jacques Jouet est le seul qui sache de quoi nous sommes en train de gloser. Oui. Il doit rigoler, lui.
Absolument.
Oui, oui.
Non.
Vous voulez bien nous relire ce texte?
Il est bienveillant, encore une fois.
Volontiers.
Entraînez-vous à tousser, oui.
Depuis combien de temps avez-vous attrapé cette toux?
Trois points d'exclamation.
Il fut impossible à mon pauvre ami de répondre avant quelques minutes. Ce n'est rien, dit-il enfin. « Venez, dis-je avec fermeté, allons-nous-en. Votre santé est précieuse. Vous êtes riche, respecté, admiré, aimé. Vous êtes heureux comme je le fus autrefois. Vous êtes un homme qui laisserait un vide. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Allons-nous-en, vous vous rendrez malade. D'ailleurs, il y a l'oukésie. Assez, dit-il, la toux, ce n'est rien, cela ne me tuera pas. Je ne mourrai pas d'un rhume. C'est vrai, répliquai-je. Et en vérité, je n'avais pas l'intention de vous alarmer inutilement. » Mais vous devriez prendre des précautions. Un coup de ce Médoc vous défendra contre l'humidité. Ici, j'enlevai une bouteille à une longue rangée de ses compagnes qui étaient couchées par terre, et je fis sauter le goulot. « Buvez, dis-je en lui présentant le vin. » Il porta la bouteille à ses lèvres, en me regardant du coin de l'œil.
Alors, deux théories s'affrontent. Il y aurait une piste complotiste un peu inquiétante, et puis il y aurait une piste humour. Est-ce que, Serge Joncourt, vous penchez pour l'humour ?
Ah ben, de toute évidence, puisque bon, le coup de Médoc, on joue sur le jeu de mots, évidemment.
Oui.
On a là un farceur.
C'est un farceur professionnel. Il a l'habitude de faire ce genre de texte ou pas ?
Oui, parce que c'est très maîtrisé, mine de rien. Et puis, les effets, vous voyez, le coup de Médoc, on ne le voit pas venir. D'ailleurs, nous-mêmes, on est un peu en divergence là-dessus.
Oui.
Non, c'est subtil, c'est fin.
Quel est le contexte, Dominique Miller ?
Très complexe, entre l'oukésie, entre le fait que le type est menacé de mort, mais pas en tout son, qu'on parle de son contexte social, vous êtes riche, aimé, admiré, etc. Je me demande si ce n'est pas un prologue à 20 000 lieu sous les mers, à cause de un coup de ce Médoc vous défendra contre l'humidité.
Oh.
Ou alors les mémoires du commandant Cousteau, vous voyez, parce qu'on a l'impression que après cette scène-là, ce monsieur qui déjà tousse beaucoup, on a l'impression qu'il va se retrouver plongé dans un truc très vaseux, humide, voilà.
Ça appartient à quel genre d'œuvre, Jacques Vallée ? Dans un roman ? C'est un petit bout de quelque chose,
d'une
chronique ?
Oui, ça doit être dans un roman ou un livre de souvenirs, parce qu'il me vient l'idée que ça serait peut-être des gens pendant la guerre, prisonniers, ou se sont évadés, ou se retrouvent dans une cave de quelqu'un, et chacun est au courant de la situation de l'autre, parce qu'il y en a un qui dit tout d'un coup... Vous êtes heureux comme je le fus autrefois. Oui. Donc il y a le rapport du passé qui intervient, des gens qui ont dû se confier déjà entre eux leur histoire, et ils se retrouvent dans une situation un peu imprévue. Pourquoi l'un prend soin de l'autre ? C'est parce qu'il est sans doute précieux pour se sauver. Je ne sais pas ce qui se passe comme situation, mais c'est le rapport entre les deux qui est intéressant.
Et s'ils se racontent leur passé, c'est qu'ils ne sont pas tout jeunes, Gérard Mordillat.
Non, mais c'est vrai qu'ils ne sont sans doute pas très jeunes, mais on comprend bien quand même que le personnage du pauvre ami est quelqu'un d'extrêmement important, puisque non seulement sa santé est précieuse, mais que s'il venait à disparaître, il laisserait un vide. Oui. Qui est la nature de ce vide. C'est un chef de réseau, c'est un chef... On ne sait pas, voilà. Et c'est vrai que vous défendra contre l'humidité, laisse penser aussi à une perspective maritime.
Comme a dit Dominique,
mais elle a tout à fait raison. Alors, non, je ne pense pas que là, ils partiront en sous-marin, mais plutôt en bateau, ou des royalistes qui préparent une action pour aller contre la République.
Voilà. Et un côté souterrain souhaitant, où ils vont se précipiter.
Oui, mais comme tout à l'heure, on a parlé qu'ils étaient peut-être dans une cave, c'est peut-être l'humidité de la cave.
Justement, c'est ça, mais...
humide, les caves.
Oui, avec les bouteilles rangées par terre, on sent derrière quand même une atmosphère de cave.
Des champignons. On voit le champignon.
On sent l'odeur de la cave dans le texte.
Mais moi, c'est Lucchesi quand même. Qui c'est? D'ailleurs, il y a Lucchesi, d'accord, mais c'est qui? C'est quoi?
Et c'est peut-être une femme, non?
Non. Alors ça, je peux vous le décrire, je ne sais pas pourquoi.
Je Miranda Lucchesi.
Non. Il aurait dit d'ailleurs, il y a Miranda. Non, non.
Bon, d'accord.
Ou la Lucchesi.
La Lucchesi. Sergent Cours, ça a été écrit à quelle époque?
Non, mais l'époque, si vous voulez, c'est un détail.
Ah ben non, pour trouver le nom d'un auteur, c'est
non,
pas
pardon,
mal de cibler l'époque.
Non, moi je suis très attaché, encore une fois, au contexte. Et je vois ces deux hommes qui, d'une certaine façon, peut-être tiennent une position. On est peut-être en période de guerre. C'est pour ça que Lucchesi pourrait être important et déterminant. Parce qu'il faut... Il y a un détail qui, dès le début, m'a un peu chiffonné. C'est quand il prend la bouteille... Il ne l'ouvre pas, la bouteille. Et je fis sauter le goulot.
Oui,
quand on en est là...
Avec un sabre.
C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas dans des conditions orthodoxes. On n'est pas en situation... Si vous voulez bien me laisser...
Oui,
aller au bout de ma phrase.
Parce que
je m'y étais engagé devant vous. Aller jusqu'au bout d'une phrase. Ce sont des personnes qui sont dans une situation extraordinaire, qui les dépassent et qui font qu'ils n'ont absolument pas leurs ustensiles, pour le moins. Hein. Mmh. En tout cas, quand un homme est à ce point perdu dans la vie qu'il n'a pas un ouvre-bouteille sur lui, c'est que vraiment ça va très mal. Donc ils font sauter le goulot, peut-être même avec un sabre.
Ouais, c'est sabre, ce que je disais,
Parce que le vin se sabre aussi bien que le champagne, si vous prenez bien le goulot. Donc il y a de la guerre là-dessous. Alors laquelle? Il y a tellement eu, il y a tellement eu, les guerres.
C'est quand même la question. La guerre est dans quel pays, Serge?
Dans tous les pays, il y a la guerre.
On fait sauter le goulot d'une bouteille quand on est en état d'urgence. Je suis pas
Alors,
sûr.
Dans quel pays y a-t-il des bouteilles à la cave quand on est en guerre?
Voilà.
En France. Voilà, vous l'avez.
Dominique Muller, est-ce que vous pouvez nous aider sur l'époque?
Alors, évidemment, entre la toux, entre la guerre, entre le Médoc dans la cave... On voit bien la date d'écriture dans les années 60.
Ah
oui. Je ne sais pas pourquoi on sent une société un peu confinée, un peu bourgeoise.
Avant mai 68.
Ah, très nettement, oui. On voit, un roman qui suinte lui aussi. De mauvais sentiments, des rancœurs, des trucs, des choses. Oui. Et dans le Bordelais, peut-être que ça va vous donner...
Évidemment.
Non,
et où sont les femmes? Que font les femmes? Puisque vous avez refusé Miranda Lucchesi tout à l'heure.
Mais c'est parce que c'est un roman d'hommes, c'est un roman de souvenirs de guerre ou de situations particulières ou de commando. Et les dames ne sont pas là, elles attendent à la maison.
En tricotant.
Mais je serais pour une époque plus en avance que 60, plutôt les années 40.
D'accord, donc la guerre, le temps de la guerre.
Pour la narration ou pour l'écriture?
Pour l'écriture, oui.
Ah oui.
Dans les années 40, oui.
Moi, je reculerai encore plus que ça, parce que vous êtes riche, respecté, admiré, aimé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt l'impression que ce genre de formulation renvoie au 19e siècle.
Ah, c'est bon, là. Serge Joncourt, quelque chose à ajouter? Là, on est vraiment dans deux périodes différentes, avant le 19e ou alors années 40 ou années 60. Vous vous situez où, vous?
Je vais vous dire, c'est assez clair. C'est soit la Première Guerre mondiale, soit la Deuxième. Là-dessus, je suis...
Et pas celle de 70
Non, pas du tout, mais j'ai une idée de l'auteur à partir de là.
Ah, alors, une dernière chose, Jacques Vallée.
Et moi, je crois que maintenant, je peux répondre à votre question.
Si laquelle?
C'est écrit directement en français.
Ah, oui,
c'est parce que je pense que c'est écrit en français à cause du style.
C'est Goulayant.
Donc je peux penser que c'est en français.
Est-ce que vous avez des noms? Allez, Serge Joncourt.
Alors, moi, j'ai assez vite... Parce que c'est la guerre, c'est une sorte d'indécision sur laquelle... Quel auteur embrasse un peu les deux comme ça? Moi, j'ai pensé à Pierre Macorlan. Parce qu'il y a aussi cette humanité que j'ai ressentie dès le début. Moi, que je voulais dire, c'est peut-être un travers, mais je vois le bien partout. Voilà.
qui était un brave bonhomme, il faut bien le dire quand même. Alors, je suis sûr que là, on a pris un passage, enfin, Jacques a pris un passage un peu calibré et calme, alors qu'après, ça va être un peu plus animé, ergotique ou que sais-je. Donc, voilà, c'est.
Macorlan, bien affirmé pour Serge Joncourt. Dominique Muller.
Ah, je suis envieuse parce que j'aurais volontiers dit Macorlan si j'y avais pensé. Mais c'est vraiment bien Macorlan. Mais alors, moi je dirais plutôt, probablement par erreur, mais un Simenon de jeunesse.
Ah, c'est vrai.
Oui. Bien que j'ignore ce qui peut se passer justement dans le Bordelais, etc. Vous avez vu que j'ai abandonné Mauriac en cours de route.
Oui, à peine évoqué.
Simenon. Ou Conan Doyle, si c'est une traduction.
Jacques Vallée.
Moi, je pense à quelqu'un comme Robert Merle ou l'auteur du balcon dans la forêt.
Julien Gracq.
Oh
non. Ah, dans le dispositif, oui.
Pourquoi vous avez un petit argument pour ?
Ce que j'ai souligné tout à l'heure sur la musique de la phrase.
Le côté coulant bien, c'est le style
travail,
de Gracq.
Le travail des phrases, des mots.
D'accord, mais pourquoi pas? C'est infiniment respectable, Jacques Vallée. Et Gérard Mordillat, qu'est-ce qu'il dit?
Moi, je pense que c'est une nouvelle de Maupassant.
Oula,
ah oui. Un petit argument pour?
Bien, c'est la qualité de Maupassant de mettre en très peu de phrases une situation en place. Et là, la situation est en place. Et donc, ensuite, il va la dérouler. Il n'y a pas besoin d'un long développement. Ensuite, mais là, la situation est en place.
Et il est le seul écrivain à faire ça, à savoir faire ça.
Pour l'instant, oui.
Bon, Jacques Jouet, je récapitule pour vous et pour tout le monde. Serge Joncourt a une bonne option, Pierre Macorlan. Dominique Muller penche entre Georges Simenon ou Conan Doyle, si jamais c'était une traduction. Pour Jacques Vallée, ce serait Robert Merle ou Julien Gracq, cause de la beauté de l'écriture. Et... pour Gérard Mordillat, un bon solide Maupassant. Voilà. Il y a le choix, il y a un grand éventail. Est-ce que dans votre liste de trois, il y a un de ces noms?
Non.
Vous avez perdu.
Ah non.
Tout à fait perdu. Si, dans un premier temps. Mais vous avez une deuxième chance. Un rattrapage est possible. Alors, les noms.
Alors, le premier nom, c'est Laurence Sterne.
Ah ouais.
Le deuxième, c'est Edgar Poe. Et le troisième, c'est Bulgakov.
Ah oui, c'est vraiment une guerre française, hein, comme vous avez dit tous.
Aucune traduction, non.
Alors, Stern, Poe ou Bulgakov, mon Dieu, que des très beaux écrivains, en tout cas. Oui. Non ?
Oh si.
Si, alors, Dominique Muller, vous voulez bien réfléchir à haute voix sur une de ces hypothèses ? Stern, Poe, Bulgakov, Loukési, c'est plutôt quoi alors ? Russe, anglais.
Moi, je dirais Poe. Parce que on est toujours étonné, moi, en tout cas, de voir que finalement, il écrivait très simplement des petites phrases très explicatives en disant voilà, j'ouvre la bouteille, je fais sauter le goulot, je lui sers. Alors qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait une écriture très mystérieuse. Voilà. Donc, je dirais Poe. D'autant plus que c'est celui des trois que je connais tout de même le mieux.
D'accord. Un Edgar Poe, un Jacques Vallée.
Je suis exactement dans le même cas de Dominique et je ne copie pas sur elle, mais je connais très peu les deux autres. Je connais un peu Poe et pour moi, ça pourrait être Edgar Poe, surtout que ce fameux Loukési viendrait de ces émigrés italiens aux États-Unis qui sont si nombreux à cette époque.
Enfin, de toute façon, il faut bien justifier Loukési par rapport à Edgar Poe, d'une façon ou d'une autre. Gérard Mordillat, alors, on est loin de Maupassant, vous allez dire non, mais...
Non, mais on n'est pas si loin que ça, non. Mais ce que je crois, moi, je serais plutôt tenté de penser que c'est de Laurence Sterne. Parce que, à la fois, l'atout du début, et le goût chez Laurence Sterne des onomatopées est flagrant... Et puis surtout, ces deux types, l'un qui veut soigner l'autre, ça me évoque vaguement quelque chose entre dans Tristram Shandy, l'oncle qui a été blessé à la guerre, etc. Donc oui, je dirais Laurence Sterne.
C'est bien, il a l'air pénétré de son sentiment, Gérard, et c'est agréable. Alors, Serge Joncourt, on n'est pas en 14-18, on n'est pas en 39-45.
Il semblerait.
On n'est pas, il y a d'autres endroits où on boit du vin.
Ça, c'est difficile. Hein,
oui, c'est difficile.
J'ai envie de dire, en première intention, j'ai envie de dire Pau, parce que c'est vrai qu'il est toujours surprenant de trouver chez Pau des sortes de passages comme ça, qui sont, somme toute, assez normaux.
Quotidien. Absolument,
oui, quotidien, voilà. Mais par goût du jeu et du danger, je dirais Bulgakov, celui qui reste.
Oui.
Le Maître et Marguerite, sûrement quelque part. Vous savez, c'est un gros volume.
Il y a beaucoup de choses dans Le Maître et Marguerite. Et il y a du quotidien, comme
il
ça.
Il pourrait
y avoir
du Médoc. Absolument. Et puis il y a tellement de personnages qu'il peut y avoir Lucchesi qu'on a oublié, qui traîne, quoi.
Ça peut être un des moments de folie dans le roman, oui.
Sans doute.
Alors, nous avons deux Edgar Poe pour Dominique Muller, pour Jacques Vallée, un Laurent Stern pour Gérard Mordillat et un Bulgakov pour Serge Joncourt. Donc, tous les écrivains ont été nommés. Il y a forcément un ou deux gagnants, Jacques Jouet.
Oui, il y en a deux.
Edgar Poe is the winner.
Ouf.
Yes.
L'honneur est sauf.
Bravo, Dominique. Bravo, Jacques. Vous l'avez fait exprès ?
Je ne l'ai pas fait exprès.
Ça veut dire que c'est aussi Baudelaire dans l'affaire.
Hein. Oui, j'ai pensé à la phrase que je citais. J'ai pensé à la
Goulayant, c'est Baudelaire quand même.
Oui. Et alors, c'est dans quoi ?
Alors, c'est un conte d'Edgar Poe, La barrique d'Amontillado. Ah, oui. La scène se passe en Italie, d'où le nom de Lucchesi, bien sûr. Il y a deux personnages. Le narrateur veut se venger de celui qui tousse.
Ah oui ?
Il l'emmène dans sa cave et il va l'emmurer. Et pour pouvoir l'emmener dans sa cave, il lui a fait miroiter qu'il avait reçu une barrique de vin de Xérès, de l'Amontillado, d'Espagne. Et comme c'est un grand amateur de vin, il lui a dit « viens goûter ce vin dans ma cave ».
Et il meurt vraiment.
Et donc c'est le personnage du narrateur est d'une
perversité
épouvantable. Et en plus le vin, là ce que vous avez dit sur le Médoc, je ne pense pas qu'il y ait le jeu de mots de médicaments dans le texte.
Mais
juste après dans le conte, il y a un jeu de mots sur le grave. Il va lui faire boire du grave après.
Oui.
Et évidemment en anglais c'est le grave.
La tombe.
Ah, oui. Ça c'est extraordinaire.
Ah, oui.
Et en allemand, Jacques.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr. Rubrique podcast, tous les renseignements concernant notre prochain rendez-vous au 105 en public le vendredi 4 novembre à la page des papous du jour, vie du club aussi, et sur notre page Facebook, entrée gratuite. Les réservations sur maisondelaradio.fr, maison de la radio tout attaché. On se retrouve dimanche prochain à 12h50. Au revoir, passez un très bel après-midi bien au chaud sur France Culture. Vous y serez en bonne compagnie.